La question du jour. Hier, l'ONU demandait la libération en Birmanie de deux journalistes condamnés lundi à 7 ans de prison pour avoir enquêté sur le massacre des Rohingyas. La semaine dernière, l'ONU avait publié un rapport évoquant le génocide des Rohingyas et mis en cause Aung San Suu Kyi qui dirige le pays depuis plus de 2 ans. Massacre de minorités, liberté de la presse entravée, pourquoi la charismatique dirigeante birmane, prix Nobel de la paix 1991, ne réagit-elle pas ? Bonjour Olivier Guillard, vous êtes chercheur à l'IRIS et directeur de l'information de Crisis 24. Il faut tout d'abord nous dire pourquoi cette icône est aujourd'hui écornée. S'agit-il en quelque sorte de remettre les pendules à l'heure ou bien l'opinion publique occidentale est-elle injuste avec elle ?
Il y a probablement un petit peu de tout cela à la fois, donc au détriment d'Aung San Suu Kyi, qui hier encore à Paris était donc une dame dont on célébrait un petit peu la majesté, le calme, la force, la tranquillité, la résistance à l'oppression militaire. Et aujourd'hui, donc, elle est tombée de son piédestal, pas uniquement à Paris, mais plus généralement dans toutes les capitales occidentales. À l'ONU, elle est pratiquement persona non grata aujourd'hui. Et en définitive, tout ça est la résultante d'une succession de crises ou de revers ou de bilans de son action un petit peu délicate et surtout donc de cette crise des Rohingyas, cette communauté apatride musulmane, donc birmane, qui a, suite à une opération contre-insurrectionnelle importante engagée il y a quasiment un an, pratiquement jour pour jour, dans cet état sensible de l'ouest birman, a filé en grande quantité, donc une volumétrie considérable en très peu de temps, 700 000 personnes réfugiées dans le Bangladesh. Des voisins. Quand on va se réfugier au Bangladesh, c'est qu'on est vraiment dans une situation extrêmement ténue, comme vous pouvez l'imaginer. Et ce qui pousse aujourd'hui la communauté internationale à être extrêmement dure à l'endroit de la dame, donc la dame de Rangoon, Aung San Suu Kyi, c'est qu'on a le sentiment qu'elle n'est pas responsable de cette tragédie humanitaire évidente, mais qu'elle aurait pu faire davantage pour en atténuer les cours et surtout pour essayer de partager un petit peu les responsabilités vers les véritables, entre guillemets, instigateurs responsables, à savoir plutôt les hommes en uniforme que les hommes en tenue civile.
Mais alors qu'en est-il selon vous ? Parce que pour des raisons constitutionnelles, elle ne peut pas être présidente de la Birmanie, mais de fait, c'est la dirigeante. Autrement dit, si cette tragédie a eu lieu, c'est bien parce qu'elle n'a rien fait pour l'empêcher, Olivier Guillard.
C'est un petit peu sévère. Je vais prendre un petit peu la défense d'un prix Nobel de la paix, même si elle a diverses choses à se reprocher. Donc, depuis 8 ans, dans ce pays qui a été dirigé entre 62 et 2010 de main de fer par une junte militaire, le sentiment général est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une Birmanie qui est démocratique. Elle ne l'est pas du tout. Il y a certes un processus de transition démocratique qui est engagé depuis 2010, très intelligemment par les militaires qui se sont mis volontairement, eux, en retrait, à la différence un petit peu des régimes tunisiens et égyptiens à l'époque. Et donc ces militaires, en définitive, ont façonné une constitution qui fête ces jours-ci son 10e anniversaire et qui leur permet d'être en retrait des affaires politiques tout en ayant la mainmise sur un certain nombre de dossiers. Tout ce qui relève du maintien de l'ordre, de la défense des frontières, de la gestion des foules, etc. Et de tout ce qui est crise avec les groupes ethniques armés qui perdurent dans 4 ou 5 ans encore état de ce pays un petit peu complexe. Aung San Suu Kyi ne peut rien demander aux militaires. Le chef d'état-major des armées, donc un seigneur général dont le nom on ne dira pas grand-chose à nos auditeurs, en définitive, est tout puissant, comme l'est la junte militaire de cette caste des généraux, et il n'a pas de compte à rendre à la dame, pas plus qu'au Parlement, pas plus qu'à sa population, sur un certain nombre de choses. Donc en fait, il est sans prise, on n'a quasiment aucune prise sur les militaires, alors même qu'on a le sentiment que ces militaires, aujourd'hui, ont laissé de la place à un gouvernement civil aux couleurs du parti de Aung San Suu Kyi, la Ligue nationale pour la démocratie, mais ce gouvernement civil sans expérience, en définitive, a très peu de prise sur les militaires qui, eux, sont ravis de voir ce bouclier civil en prendre plein le dos et ailleurs depuis un an et se retrancher derrière un petit peu. Vous avez un problème, vous voyez que ce gouvernement civil démocratiquement élu, c'est votre interlocuteur, ce n'est pas nous les hommes en uniforme.
Donc il serait instrumentalisé ce gouvernement civil. Ce que l'on ne comprend pas également, Olivier Guillard, c'est que l'opinion publique birmane ne s'émeuve pas du sort de ces Rohingyas, dont il faut quand même rappeler, tous les Rohingyas sont musulmans, mais il y a des musulmans en Birmanie qui ne sont pas Rohingyas.
Bien entendu, donc, dans cette configuration particulière qu'est la Birmanie, un pays éminemment ethnique, avec un grand groupe ethnique, les Bamars, ceux qui se considèrent être les véritables Birmans, et un tiers de ces 51 millions d'individus qui sont ethniques. On a 135 groupes ethniques distincts, et un 132e qui mériterait probablement, à juste titre, d'être reconnu comme tel, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui par le cadre administratif et légal birman. Ce sont ces Rohingyas qui sont une population originellement en provenance du sous-continent indien voisin, donc notamment donc du Bangladesh, qui sont venus par vagues successives du temps de la colonisation anglaise, même en amont, également après, et qui ne s'est jamais véritablement intégré ou été intégré par la population majoritairement bouddhiste de ce pays, qui est un pays où le nationalisme est relativement fort. Cette intégration ne s'est pas faite des deux côtés, hein, certainement des résistances de part et d'autre, et une grande partie des 51 millions de Birmans, y compris parmi cette minorité ethnique importante, donc ce tiers de la population, n'a que faire, en définitive, du sort des Rohingyas, en se disant, écoutez...
Pourquoi cette inhumanité? Pourquoi laisser ces scènes? On voit donc la manière dont ils sont traités et dont aujourd'hui ils survivent, parce qu'il n'y a pas d'autre mot au Bangladesh, Olivier Guillard.
Eh bien, écoutez, ça, le propos de vos interlocuteurs, en fonction de leur situation dans la société birmane, varie un petit peu. Beaucoup disent, écoutez, ces gens-ci ne partagent pas notre religion, ne partagent pas notre histoire ancienne, sont des individus qui viennent d'une contrée où on ne parle pas la même langue, ne font pas le moindre effort pour s'intégrer dans la société birmane. Pourquoi serait-il à nous de faire l'effort? Donc en fait, on rejette un petit peu, c'est assez facile, la culpabilité sur l'autre. Et en définitive, cette rancœur permet aussi à cette population qui est très diverse, d'une certaine manière, donc une fois encore 135 groupes ethniques armés, vous avez encore 20 groupes ethniques armés, qui ont des hommes, et dont la moitié encore combattent les troupes régulières de la Birmanie dans les États Kachin au nord, dans l'État Shan. Ça permet d'une certaine manière aussi de se focaliser sur un élément exogène commun, les Rohingyas, en se disant, ce ne sont ni des Birmans, ce ne sont ni des bouddhistes, ce sont des gens qui viennent du sous-continent indien. Pourquoi devrait-on leur faire un meilleur accueil?
Olivier Guillard, en quelques mots, voyez-vous une issue à ce drame?
L'issue à ce drame, en définitive, aujourd'hui, quand vous êtes au Bangladesh, quand vous êtes à l'ONU, quand vous êtes à Rangoon, vous avez le sentiment qu'il suffirait que le Bangladesh et la Birmanie se mettent d'accord pour que ces 700 000 personnes reviennent. Vous interrogez, j'étais en Arakan il y a peu de temps, il y a quelques mois, et de ce que nous avions comme la majorité des Rohingyas installés ou réfugiés plutôt au Bangladesh ne comptent pas revenir, ils ne se sentent pas en sécurité et ils se savent de toute façon encore moins bienvenus s'ils étaient de retour. Donc malheureusement, la gestion de ce problème est un problème sur le long terme, non pas sur le court terme.
Merci Olivier Guillard. Je rappelle que vous êtes directeur de l'information de Crisis 24 et chercheur à l'IRIS.